VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 5 avril 2023. L'ancien président américain Donald Trump dénonce une ingérence électorale après sa mise en accusation. Le président français Emmanuel Macron est en Chine en visite officielle pour réengager le dialogue avec Pékin. En Guinée, des médecins ont été condamnés pour le viol et la mort d'une jeune femme qui a choqué tout le pays. La communauté des étudiants africains en Turquie, sous le choc, malgré les arrestations qui ont suivi la mort suspecte d'une jeune Gabonaise de 17 ans.
Tout le monde était debout, tout le monde était affecté. Le même soir où on a découvert ça, il y avait déjà en quelque sorte des petites manifestations devant la gendarmerie.
Réaction dans la partie magazine de Marc-Hubert Kassa Azoumé, président de l'association des étudiants gabonais de Karabuk. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Donald Trump a plaidé non coupable à New York de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux. L'ancien président a de nouveau nié les accusations et s'est attaqué aux motivations du procureur de New York, Alexandrine Ollongnon.
Donald Trump s'est rendu à un tribunal de New York où il a nié les accusations d'avoir participé à un stratagème pour dissimuler des accusations d'inconduite sexuelle en falsifiant des documents commerciaux en vue de cacher des paiements à des accusatrices, dont une ancienne actrice de films pour adultes. Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg.
34 fausses déclarations ont été faites pour couvrir d'autres crimes. Ce sont des crimes dans l'État de New York. Peu importe qui vous êtes.
L'ancien président a été accueilli par ses partisans à son retour en Floride. Il s'est montré défiant lors d'une allocution télévisée depuis sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago. Il a déclaré que le procureur est motivé par des considérations politiques.
Avec un procureur local défaillant qui inculpe un ancien président des États-Unis pour la première fois dans l'histoire sur une base qui, de l'avis de tous les experts et analystes juridiques, n'existe pas.
Un grand jury a voté jeudi dernier l'inculpation de Donald Trump. Paul Schiffberman enseigne le droit à l'université George Washington. Il estime que ses attaques contre la procédure judiciaire ne feront que se retourner contre lui. Il s'est exprimé par Skype.
The case is going to be heard based on the facts and the law.
L'affaire sera jugée sur la base des faits de la loi. Je ne pense pas non plus que ça l'aidera à s'imposer auprès du peuple américain, car la plupart des Américains veulent que la procédure judiciaire fonctionne pleinement et équitablement, même à l'égard d'un ancien président.
Les personnes qui se sont rassemblées devant le tribunal à New York étaient très divisées. John Cheney est un partisan.
Je soutiens mon président Donald Trump, le plus grand président de l'histoire américaine, probablement le meilleur dirigeant de tous les temps de la planète Terre.
Jennifer Fisher n'est pas un fan de Trump.
C'est un escroc. Beaucoup de gens se font encore avoir, mais les New Yorkais, ils ne les trompent pas, mais j'espère qu'ils verront la lumière.
Trump fait face à une inculpation sans précédent alors qu'il reste l'un des principaux candidats à l'investiture républicaine pour la prochaine élection présidentielle.
Et vous l'avez entendu, Donald Trump a rejeté hier les 34 chefs d'inculpation retenus contre lui par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, au terme de 5 années d'enquête. Eric Manirakiza nous livre les prochaines étapes de cette affaire.
La défense doit accéder à l'ensemble du dossier d'accusation au mois de mai. Elle pourra ensuite introduire des requêtes jusqu'au 8 août prochain. Le procureur devra fournir ses réponses avant le 19 septembre. Une audience est prévue le 4 décembre, l'occasion au juge pour se prononcer sur ses requêtes. Un expert en droit pénal indique que les avocats de Trump pourraient tenter de retarder le début du procès en déposant une flopée de recours. Le juge Juan Mercan du tribunal pénal de Manhattan à New York, où M. Trump a comparu, a déclaré qu'un procès pourrait commencer en janvier prochain. Mais les avocats de Donald Trump, présents à cette audience historique, préfèrent le printemps 2024. Les accusations se basent sur de supposés paiements occultes à la fin de la campagne présidentielle de 2016 pour acheter le silence d'une star de film porno Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation en 2006, ce que Trump dément.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aujourd'hui en Pologne pour une visite officielle à un allié clé qui a joué un rôle de premier plan pour le soutien militaire et politique occidental à Kiev. Cette visite intervient alors que l'Ukraine se prépare à mener une contre-attaque pour reprendre des territoires occupés dans l'est et le sud du pays. Le président français affirme que la Chine peut jouer un rôle majeur pour trouver un chemin de paix en Ukraine. Emmanuel Macron a fait cette déclaration à son arrivée à Pékin aujourd'hui, au début d'une visite visant à renouer le dialogue en face à face avec son homologue chinois Xi Jinping. Jacques Aristide.
La Chine, justement, a proposé un plan de paix, a rappelé le chef de l'État français devant la communauté de ses concitoyens, dont il a salué le courage remarquable. Après les longues restrictions liées à la pandémie de Covid-19, levées seulement en fin d'année, l'invasion russe de l'Ukraine, jamais condamnée formellement par Pékin, figure en haut des dossiers qu'il a prévu d'aborder avec Xi Jinping. Emmanuel Macron a demandé à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de l'accompagner pour un de ses entretiens avec le président chinois. Entouré d'un imposant aéropage de plus de 50 chefs d'entreprise françaises, dont ceux d'Airbus, EDF ou encore Veolia, il a dit que la France et l'Union européenne ne devaient pas se séparer de la Chine sur le plan économique, mais maintenir une voie réaliste et ambitieuse. Il ne faut pas nous séparer de la Chine, mais s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale avec la Chine, a plaidé Emmanuel Macron. Plusieurs contrats importants seront signés ce jeudi, a-t-il indiqué.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les talibans à révoquer la décision d'interdiction aux Afghanes de travailler pour les Nations Unies. Ces femmes sont essentielles aux opérations humanitaires de l'ONU. L'application de cette décision va nuire à la population afghane, dont des millions ont besoin de cette assistance, a fait savoir Stéphane Dujarric, le porte-parole de M. Guterres, qui demande à nouveau le retrait de toutes les mesures de restriction contre les femmes et les filles en matière de travail, d'éducation et de liberté de mouvement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un demi-frère du président togolais Faure Gnassingbé, accusé d'avoir tenté de renverser le pouvoir en 2009 et détenu depuis lors, a été évacué au Gabon pour des raisons sanitaires, a déclaré aujourd'hui l'un de ses avocats, considéré comme le cerveau d'un putsch raté. Pacha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense de 2005 à 2007 et âgé de 52 ans du moins, a été condamné en septembre 2011 à 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Il avait été arrêté le 15 avril 2009 devant l'ambassade américaine où il tentait de trouver refuge. La justice guinéenne a reconnu hier 3 médecins coupables de la mort d'une jeune femme survenue en 2021. Ils ont été condamnés pour coups et blessures, avortement et viol. Le point avec Nani Talani.
Les médecins Daniel Lama, Patrice Lama et Célestin Milimuno ont été déclarés coupables d'avortement ainsi que de coups et blessures et ont entraîné la mort sans intention de la donner. Célestin Milimuno et Patrice Lama ont également été condamnés pour viol. Patrice Lama et Daniel Lama écopent de 15 ans de prison chacun. Un quatrième médecin, Sebori Sissé, a lui été reconnu coupable de mise en danger d'autrui et écope d'un an de détention. Célestin Milimuno, en fuite, écope de 20 ans de prison. Un mandat d'arrêt a été lancé à son encontre. Les accusations d'administration de substances nocives qui ont été portées contre les 4 médecins ont été abandonnées. Mma Sila, une secrétaire de 25 ans, a été violée dans un hôpital de Conakry, avait annoncé à l'époque le gouvernement guinéen. Elle est décédée par la suite en Tunisie, où elle a été évacuée pour des soins.
Un exécutif régional intérimaire de 27 membres a été formé ce mercredi pour administrer le Tigré dans le cadre du processus de paix engagé depuis novembre pour mettre fin au conflit brutal dans cette région du nord de l'Éthiopie. La télévision officielle du Tigré a publié la liste de cette équipe dans laquelle figurent en bonne place des généraux tigréens et plusieurs figures du Front de libération du Tigré, parti qui dirigeait les institutions de la région avant de prendre les armes contre le gouvernement fédéral en novembre 2020. Le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga a revendiqué mardi que les partis non représentés au Parlement prennent part aux discussions sur la réforme électorale et le coût élevé de la vie en désaccord avec le plan du président William Ruto qui veut que les négociations se déroulent uniquement au sein du Parlement. Dimanche, M. Odinga a accepté les pourparlers proposés par M. Ruto après que ce dernier lui a demandé de mettre fin aux manifestations. Des milliers de personnes ont participé à 3 marches de l'opposition au cours des 2 dernières semaines qui ont toutes tourné à la violence. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Jibou.
Le gouvernement sud-africain a levé aujourd'hui l'état de catastrophe nationale déclenché il y a 2 mois pour tenter d'endiguer la grave crise de l'électricité qui plombe l'économie et le quotidien du pays. Les autorités ont évoqué une amélioration de l'approvisionnement en électricité sans donner de précision sur les progrès accomplis. À l'approche des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods qui auront lieu à Washington la semaine prochaine, le FMI a publié 2 rapports ce mercredi qui alertent sur la fragmentation de l'économie mondiale. Une menace pèse sur la croissance potentielle au niveau mondial, mais tout particulièrement pour les pays émergents. La bourse de New York a ouvert avec hésitation ce mercredi, les investisseurs cherchant à évaluer les risques d'un ralentissement de l'économie. Publiée aujourd'hui, l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi privé aux États-Unis a montré un nouveau signe de refroidissement du marché du travail. Le taux de chômage est néanmoins stable à 3,6%.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
La RDC a déposé un recours pour son match contre la Mauritanie.
Oui, c'est ce qui ressort d'un communiqué publié sur le compte Twitter de la Fédération congolaise de football. Cette plainte intervient après son match nul 1-0 contre la Mauritanie en éliminatoire de la CAN 2023. Les Congolais se sont beaucoup plaints de l'arbitrage, surtout du carton rouge attribué à Cédric Bakambu. Après un contact supposé avec le gardien mauritanien Babacar Niass, cette plainte intervient après une autre déposée par le Bénin contre le Rwanda dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Alexander Seferin réélu à la présidence de l'UEFA jusqu'en 2027.
Seul candidat en lice, le Slovène a été réélu par acclamation à la présidence de la Confédération européenne de football, l'équivalent européen de la CAF, lors du congrès de l'instance à Lisbonne. Alexander Seferin entame donc un 3e mandat de 4 ans. Il a pris la tête de l'UEFA en 2016 après la suspension de Michel Platini et avait été reconduit dans ses fonctions en 2019. Avocat de formation, l'ex-patron de la Fédération slovène de football de 2011 à 2016 veut poursuivre ses 2 gros chantiers, la réforme du fair play financier avec l'introduction d'une sorte de plafond sur les salaires, les indemnités de transfert et les commissions versées aux agents et la nouvelle formule de la Ligue des champions qui passera de 32 à 36 équipes à partir de la saison 2024-2025.
On termine par la NBA. Joel Embiid a écœuré Boston.
En mode MVP, Joel Embiid a passé 52 points à Boston pour faire gagner Philadelphie 103-101 dans le choc de l'Est qui a profité à Milwaukee. Vainqueur en effet à Washington 140-128, les Bucks sont presque assurés de finir premier. À l'ouest, les Nuggets premiers se sont inclinés chez la Lanterne Rouge 124-103. Du coup, Memphis deuxième conserve un infime espoir de changer la donne. Après sa victoire 119-109 contre Portland, les Suns quatrième ont accédé en play-off en enchaînant un 5e succès de rang aux dépens de San Antonio 115-94. Golden State a battu Oklahoma City 136-125. Brooklyn est tombé à domicile 107-102 devant Minnesota. Du coup, Miami vainqueur 118-105 à Détroit conserve une petite chance de dépasser les Nets avec 37 points et un double pas réussi à 27 secondes de la fin, synonyme de panier de la victoire pour les Lakers à Utah 135-133. L'inoxydable LeBron James, 38 ans, a encore été décisif. Malgré le revers concédé à domicile 123-105 face à Atlanta, Chicago est assuré de jouer les barrages du fait de la défaite d'Orlando contre Cleveland, 117-113.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Sept personnes ont été arrêtées après la mort suspecte d'une étudiante gabonaise dans le nord-est de la Turquie. Le corps de Jana Denis Dinabongo Ibuanga, 17 ans, a été retrouvé le 26 mars dans une rivière non loin de l'université de Karabük où elle étudiait le génie mécanique. La mort de la jeune fille surnommée Dina par ses amis a suscité une vive émotion sur le campus de Karabük. Yacouba Ouedraogo a joint dans cette localité Marc Hubert Kassa Azoumé, président de l'association des étudiants gabonais de cette ville.
Il y a une vidéo qui a circulé dans le groupe d'étudiants où on disait qu'il y a une fille noire décédée. Un proche à moi qui est venu me voir, on cherche notre sœur depuis, alors qu'elle est sortie hier, vraiment de 23h. Et donc du coup, en même temps, un membre de l'Union africaine m'a appelé pour partir au niveau de l'hôpital, au niveau de la morgue, parce que moi, en tant que président, il fallait que je vienne aussi voir si ça correspond à un membre de ma communauté. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte une fois arrivé à l'hôpital que c'était bel et bien.
Quand vous dites un membre de l'Union africaine, vous parlez bien de l'organisation en Afrique ici ou sur place en Turquie là-bas?
En Turquie et plus précisément dans la ville. Dans la ville aussi, on a une association de l'Union africaine où il y a les différents présidents de différentes villes avec quelques membres à la tête, quelques étudiants comme nous, quoi.
Est-ce que vous la connaissiez personnellement?
Personnellement, je la connaissais pas parce que ça faisait juste à peine 5 mois, 6 mois qu'elle était là. On est une communauté de, pour arrondir, 300 et 400 étudiants. On s'était retrouvés dans certains endroits ensemble, mais j'avais jamais prêté attention.
Comment cela a affecté la communauté gabonaise et au-delà la communauté universitaire dans laquelle elle étudiait?
C'était toutes les communautés africaines. Tout le monde était debout, tout le monde était affecté. Même soir où on a découvert ça, il y avait déjà en quelque sorte des petites manifestations devant la gendarmerie. Donc, hormis le fait qu'on était attristé, il y avait plus de frustration, plus de colère.
Est-ce que vous savez jusqu'ici ce de quoi elle est morte?
Les premières autopsies sont parties. C'est le pré-rapport où on disait qu'elle était morte par noyade. Et après ça, naturellement, ça a été controversé parce que nous tous, on s'est dit non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? L'ambassade du Gabon a demandé une contre-expertise. Voilà, ce qu'ils ont répondu, c'est que voilà, les choses avancent, c'était juste un pré-rapport. Voilà, c'est pas encore l'autopsie finale.
Les autorités turques ont annoncé des arrestations. Est-ce que vous dites que justice sera rendue pour Dina, comme vous l'appeliez?
C'est 7 personnes qui ont été arrêtées, dont 4 ressortissants turcs et 3 étudiants gabonais. Ils sont allés placer en garde à vue pour raison d'enquête. Maintenant, aux dernières nouvelles, les 4 Turcs ont été déférés vers le parquet. Ce sont les informations du jour qui sont rendues officielles. Mais les 3 Gabonais n'ont pas été déférés au tribunal. Ils sont toujours au niveau de la garde à vue.
Est-ce que les autorités gabonaises sur place, je vais parler par exemple du personnel diplomatique, vous a contacté?
Je suis en communication directe avec l'ambassade du Gabon en Turquie, 6 Ankara. Pour l'instant, l'État gabonais, l'ambassade, m'a communiqué de faire une liste de tous les étudiants gabonais, pas seulement à Karabük, mais dans toutes les villes de la Turquie, qui se sentent lésés, victimes de racisme, puissent écrire leur nom sur la liste. Et au moment voulu, un avion pourra les déporter et les renvoyer au Gabon. Parce que avec cette affaire-là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On a l'impression que beaucoup de gens vivent le racisme, sont lésés, les conditions de vie ici ne sont pas bonnes. C'est pas mon avis. Par rapport à moi, à notre groupe, moi et l'Union africaine, qui sommes rentrés en contact avec les autorités de la ville, comme le commissaire nous a dit que par rapport à ce qui s'est passé là et par rapport aux différentes plaintes que vous avez, on va renforcer la sécurité des policiers dans la ville de Karabük, plus précisément dans le quartier où tous les étudiants se trouvent.
Hubert Kassa Azoumé, président de l'Association des étudiants gabonais de Karabük en Turquie.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Tchad, les ex-politico-militaires du FACT, condamnés à des peines d'emprisonnement à vie et bénéficiaires de la grâce présidentielle, ont été libérés ce matin. Une 30aine d'entre eux ont reçu leur certificat de libération au cours d'une cérémonie officielle devant la prison de Klesoum, à une 20aine de kilomètres de la capitale N'Djamena. Ils étaient en prison pour le meurtre au front de l'ancien président Idriss Déby Itno en 2021. André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Article 1. Les membres du groupe armé dénommé FAC, condamnés pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État, bénéficient de la grâce présentielle.
Le chef de division et de gestion pénitentiaire Tapsou Hassan, lisant l'acte du président de la transition, accordant la grâce présidentielle aux 380 personnes ayant participé au combat au cours duquel le président Déby Père avait trouvé la mort en avril 2021. Une trentaine a reçu des autorités judiciaires des certificats d'acquittement, parmi lesquels Oikonga Gelmin Kemda, ex-président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Il se réjouit de cette liberté et demande aux autorités judiciaires de respecter les droits des prisonniers.
Je suis comme tout autre prisonnier. Quand on recouvre la liberté, on a le sourire aux lèvres. Ça a été tellement difficile puisque nos droits ne sont pas respectés. Je voudrais ici inviter les directeurs de pénitence à respecter les droits des prisonniers. Nous sommes dans un pays des droits et donc tout prisonnier doit avoir accès aux soins, doit avoir une certaine liberté. Mais ceci est bloqué.
Son épouse, venue assister à cette cérémonie, verse les larmes de joie de voir son mari en liberté.
J'ai vécu un peu difficilement, mais Dieu merci. Aujourd'hui, mon époux est libre. Je suis vraiment contente et je rends grâce à Dieu pour cela.
Faisant partie des prérogatives régaliennes du président de la République, il peut l'accorder à tout condamné, a déclaré au micro de VOA Afrique le ministre de la Justice, Ahmad Mahamat Alabo.
L'élaboration de la politique d'exécution des peines et mesures privatives et restrictives des libertés, ainsi que l'application des mesures de remise de peine, de grâce et d'amnistie constituent de nouvelles visions des plus hautes autorités pour contribuer à la mise en place d'une justice impartiale, équitable et accessible à tous. Ces démarches magnanimes constituent sans nul doute un gage du rétablissement de la confiance entre les fils et filles du Tchad dans la paix sociale.
Le directeur des établissements pénitentiaires d'Ougri, Abakar Saleh Ibrahim, interpelle les bénéficiaires au respect des lois en vigueur pour ne pas retomber dans les erreurs.
La prison est un lieu de rééducation des personnes en conflit avec la loi. C'est pourquoi nous demandons aux bénéficiaires de cette grâce présidentielle d'être exemplaires au sein de la société.
Oikonga Gelmin Kemda, ex-président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, dit qu'il ne regrette pas avoir fini sa lutte en prison. Toutefois, il lance un appel à ses compagnons d'armes de privilégier le dialogue.
C'est des frustrations sociales qui ont fait que nous sommes arrivés à cette situation. Maintenant que nous sommes engagés pour la paix, et si nous changeons de comportement, je ne vois pas où est le problème. Aucun homme ne peut refuser la paix.
Les manifestants condamnés et bénéficiaires de la grâce présidentielle retrouveront incessamment leur liberté. Les 139 autres non jugés, le ministre de la Justice informe que leurs dossiers sont déjà dans le cabinet d'un juge d'instruction et que leur situation sera également examinée avec diligence. André Kodumadingar, Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La présidente de la commission Vérité et Réconciliation en Centrafrique, Edith Douzima Lawson, dit avoir appris de manière non officielle qu'elle a été destituée par ses pairs commissaires lors d'une plénière extraordinaire hier en son absence. Elle qualifie cette mesure d'illégale. Un procès-verbal aurait été établi ce mercredi, mais Maître Ndouzima n'a pas été notifié. Nathalie Barge a joint hier soir à Bangui Mme Marie-Edith Douzima Lawson, présidente de la commission Vérité et Réconciliation en Centrafrique.
Je l'ai appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux que j'aurais été destituée par mes collègues les commissaires. Et donc, certaines personnes qui m'ont appelé, ils disent qu'ils sentent un complot dans tout ça.
Est-ce que vous savez si tous les commissaires étaient d'accord pour cette décision?
J'ai eu des commissaires pour autre chose qui m'en ont pas parlé. Et donc, je sais qu'ils n'étaient pas là. Et puis, je sais que ces commissaires ne pouvaient pas être d'accord avec ça. Mais dans cette commission, comme on le dit, le mur en des oreilles, j'ai su qu'il y a eu cette réunion extraordinaire qui n'a pas été convoquée par moi, puisque c'est moi la présidente.
Pourquoi a-t-elle été organisée sans votre présence?
Justement, il est prévu par la loi que nous nous réunissons en plénière une fois par mois. Et donc, au début de l'année, fin janvier, nous sommes réunis et nous avons dit, à partir de maintenant, on va se réunir les premiers jeudis de chaque mois. J'ai fait préparer une invitation en bonne et due forme pour convoquer les commissaires à notre plénière ordinaire du mois d'avril, donc pour ce jeudi. Et puis, il y a eu ça. J'ai pas été, entre guillemets, convoqué à cette plénière extraordinaire. C'est pour cela que j'ai été surprise.
Est-ce que le règlement intérieur permet aux commissaires de destituer la présidente?
Non, de toute façon, nous n'avons même pas encore de règlement intérieur parce qu'on a eu des difficultés d'ordre administratif et procédural pour faire valider le règlement intérieur qui prévoit ce genre de choses. La loi prévoit que notre règlement intérieur doit être validé par la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas encore fait. On attendait le décret d'application de la loi qui vient juste d'être signé à la fin de ce mois de mars. Et c'est maintenant que nous devons harmoniser notre règlement intérieur avec ce décret d'application afin de soumettre à la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas encore fait. En tout état de cause, cette procédure est illégale parce qu'il est prévu dans la loi que c'est la présidente qui doit convoquer une plénière ou la personne qui assure son intérim ou si elle délègue à un commissaire, ce qui n'a pas été fait. Ensuite, lorsque vous voulez sanctionner quelqu'un, ma foi, on a quand même des juristes parmi les commissaires. On entend cette personne a des voies de recours. Donc, on entend cette personne et on décide. On décide de la majorité des deux tiers. Je n'ai jamais été convoqué, je n'ai jamais été entendu, je n'ai jamais été notifié. Et je crois qu'ils viennent là d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce que tous ceux qui s'agitent, ils ont beaucoup de choses à se reprocher.
Est-ce que ça veut dire que ça va engager une bataille juridique?
Sûrement. Je suis d'une part victime de ma tolérance, d'autre part je suis victime de ma rigueur. Eh bien, ça gérera en conséquence.
Maître Marie-Edith Douzima Lawson, présidente de la commission Vérité et Réconciliation en Centrafrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, les petits entrepreneurs saisissent de plus en plus les opportunités de financement offertes par Proparco, une filiale de l'Agence française de développement. Elle a d'ailleurs présenté sa nouvelle stratégie de financement en Afrique pour les 5 prochaines années. Des projets de production et de transformation agricole sont parmi les bénéficiaires. Dans un pays où 70% du tissu économique est constitué du secteur informel, le besoin en financement est encore réel. À Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julenta.
René et deux de ses employés s'affairent dans un champ de poivre à Loum, localité située non loin de Douala. Pour se lancer dans cette activité agricole, René Agodio a obtenu un financement bancaire. Il emploie aujourd'hui 6 personnes à plein temps.
Je suis allé à CEP, j'ai fait le prêt de 2 millions de pounds. C'est ça qui m'a permis de mettre le culture à long terme comme le poivre. Donc c'est là où j'ai bénéficié à CEP.
À Kapa, autre localité non loin de Douala, Victorine Kessé s'est investie dans la production de l'huile de palme grâce à 2 financements successifs d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Victorine Kessé est une exploitante d'huile de palme.
Je fais l'activité d'huile de palme, j'ai un pressoir, j'ai aussi mes plantations où je récolte les noix. Et il y a aussi les clients qui viennent presser l'huile ici et ils me payent. Ils payent pour l'utilisation de la machine, du pressoir.
À 105 km de Douala, un champ d'ananas s'étend sur 5 hectares grâce à un accompagnement d'une microfinance. Il y a 5 ans, l'investisseur faisait ses premières cultures sur 1 hectare. Constante Biélé, directeur du crédit à CEP Cameroun, a accompagné ce producteur.
Au-delà de l'accompagnement proprement dit qui est apporté un souffle en capital, bien sûr le volet financier, nous essayons de l'accompagner sur le volet éducation financière.
Près de 2000 entreprises ont été financées entre 2019 et 2020 à travers l'initiative Choose Africa de Proparco. Dans sa nouvelle stratégie, Proparco entend consacrer 2,5 milliards d'euros pour les 5 prochaines années aux pays africains. Françoise Lombard, directrice générale de Proparco.
On va avoir par exemple plus d'appétit au risque sur certains ce qu'on appelle les PME, TPE à impact. Sur les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, sur le secteur agricole et agroalimentaire et également sur deux types de publics, les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Et on va de la même manière avoir aussi un appétit au risque supérieur sur certaines géographies ou certains pays.
Proparco a également annoncé qu'un montant de 30 millions d'euros sera alloué aux start-up innovantes en Afrique entre 2023 et 2025. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.